Les gardiennes de rue. Peut-être les avez-vous déjà croisées dans les rues en allant prendre le bus, acheter le pain ou lors d'une rentrée de soirée. Mais qui sont-elles ? Que surveille-t-elle ? Connue sous le nom de la Dame qui colle, cette artiste lilloise originaire de Paris colle ses portraits de femmes dans la rue depuis 2021. Ses gardiennes surveillent les rues de la métropole lilloise, mais également celles d'autres villes françaises et européennes. Présente dans les rues sombres et dans des endroits étroits, elle soulève des questionnements féministes quant à la place de la femme dans l'espace public. La Dame qui colle a accepté de venir nous parler des prémices et des objectifs de ce projet.
Ça fait 4 ans que je colle, j'ai commencé à coller juste après les confinements à la rencontre d'un portrait d'une personne qui m'a raconté son histoire de violence. Et je me suis dit, la meilleure manière de défendre mes propos, ce serait de coller des portraits de femmes qui ont elles-mêmes lutté dans leur vie contre des violences qu'elles ont vécues et d'aller les afficher. Et on a choisi ensemble avec le portrait 1 et à la suite avec le portrait 2 de les appeler comme ça, les gardiennes de rue. Mon travail artistique est surtout d'aller à la rencontre de femmes, de parler de ce qu'elles ont vécu, de les rendre visibles, de les mettre à l'aise et de donner à voir dans l'espace public des femmes libres de leur corps et de leur manière de penser et de leur donner la possibilité de se défendre de soit ce qu'elles ont vécu elles, soit de ce que pourraient vivre les autres dans l'espace public. J'ai collé un tout petit peu à Roubaix, Tourcoing, j'ai collé plus de 200 portraits en vrai dans toute l'Europe. Donc il y a certaines villes où j'ai décidé d'aller, notamment Bordeaux ou Marseille, surtout Marseille que je voulais, et là je vais aller à Lyon la semaine prochaine. Je cible aussi des villes, des grandes villes dans lesquelles on sait que les femmes se font agresser majoritairement. Et je vais à la rencontre des gens et je leur demande où sont les endroits où les gens sortent. Et du coup, je quadrille ces espaces-là et je colle dans les rues un peu sombres entre les gens, l'endroit où on vit et l'endroit où on sort. Donc je cible un peu des villes où je colle.
Et t'avais pas commencé directement par les collages, t'avais fait d'autres choses avant ?
Oui, alors carrément. Ouais. En fait, j'ai commencé par le dessin parce que c'est l'outil le plus simple et qui coûte le moins cher. Donc je trouvais que ça cool. Du dessin, je suis passé un peu au graphisme et en quittant Paris pour remonter à Lille, je pensais pas du tout passer au collage. Le collage est venu parce que je voulais passer dans l'espace public, parce que j'étais en colère et parce que le portrait. Hein. C'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me dépasse, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Alors que j'avais déjà mon métier artistique qui était déjà très engagé politiquement, mais pas sur ces sujets-là. Et à la lecture d'un livre d'un anglais qui s'appelle John Berger dans les années 80, qui s'appelle Voir le voir. Et dans ce livre, ce qu'il raconte, c'est qu'un artiste peint ce qu'il voit. Donc ça veut dire que s'il regarde une œuvre dans un musée, c'est le regard de la personne même qui peint. Et en fait, la plupart des artistes sont des hommes. Du coup, ça veut dire que tout ce qu'on connaît de l'histoire de l'art, c'est un regard masculin, donc un male gaze. Et je pense que là, ça m'a un peu marqué de me dire déjà qu'est-ce que je fous dans un métier dans lequel je ne serai jamais reconnue puisque je suis une femme. C'est-à-dire que 10% des femmes peuvent peut-être réussir dans ce milieu-là, mais c'est très faible. Et en plus, l'éducation que j'ai reçue, visuelle, n'est qu'un regard masculin, donc j'avais du mal à me rendre compte à quel point j'étais imprégnée. Mes propres dessins étaient faux, en fait. Enfin, ils n'étaient pas les miens. Et donc ça a été le basculement, puisque dans ce livre aussi, il fait référence à quelque chose. Il dit que en chacune de nous, il y a une surveillante qui surveille la surveillée. Ce qui signifie que quand tu vas sortir dans la rue, la surveillante te regarde, t'analyse toi-même, donc c'est quand même toi, hein. Et avant que tu sortes dans l'espace public, tu te corriges toi-même pour pouvoir ressembler à l'image qu'on attend de toi dans l'espace public. Et ça, c'était un peu l'élément déclencheur de « j'ai de la colère, je comprends pas, j'aime pas cette contrainte, j'ai envie de l'interroger, elle devient problématique pour moi ». Puis le portrait 1 qui m'a foutu son histoire. C'était pas la première fois. Moi aussi, j'étais agressée à 19 ans. J'ai vécu pas mal d'agressions sexuelles qui étaient violentes. Et en fait, je pense que là, cet écho-là me disait « allons simplement dans ce sujet-là ». Il est déjà très simple. Et c'est déjà hyper essentiel de débattre sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être survivante d'une agression, j'aime pas le mot victime, et qu'est-ce qui nous traverse et comment est-ce qu'on résiste.
J'aimerais bien parler un petit peu maintenant de la façon dont tu représentes les femmes. Comment est-ce que toi tu as décidé de représenter les femmes ?
Déjà, je trouve que le plus cool c'est d'accueillir quelqu'un, c'est-à-dire que si tu accueilles la personne entièrement pour ce qu'elle est, celle qui est choisie entièrement tout ce qu'elle est, donc le style vestimentaire, le regard, la posture, je dirige très peu. Enfin, le but c'est quand même qu'elle se montre pour ce qu'elle décide de montrer. Elles ont pas de particularité dans leur représentation pour moi, elles sont plutôt des individus que j'ai croisés, avec lesquels je vais pouvoir me sentir à l'aise parce que moi-même je vais aussi porter mon style à moi de liberté de style vestimentaire et avec moi elles vont pouvoir elles-mêmes être ce qu'elles décident d'être. Du coup la représentation revient naturellement à quelque chose de très contemporain parce qu'elles sont en fait les femmes sont assez streetwear, elles sont pas hyper sexualisées, c'est quand même dans des cas de figure hyper particuliers qu'on va se costumer je trouve, alors que la plupart du temps mes modèles choisissent des vêtements dans lesquels elles se sentent confortables et la plupart des hommes aussi que je dessine c'est juste des personnes ordinaires et ça j'aime bien.
Ouais, du coup c'est vraiment un changement de paradigme, ce n'est plus l'artiste qui choisit comment représenter la femme. C'est plutôt la femme qui choisit la manière dont elle va être représentée.
Il y a aussi quelque chose qui se joue, c'est l'image qu'on peut porter de soi à soi. Et j'aime bien dans l'exercice de la rencontre essayer de trouver la beauté dans la personne. C'est-à-dire que tout le monde est beau. Et quand on tombe amoureux, le visage de la personne se modifie. Tu peux rencontrer quelqu'un et au bout de 6 mois, un jour, quand tu as des sentiments amoureux, la personne devient irrésistible. Et je trouve que j'essaye de le chercher dans la rencontre parce que la beauté, elle ne naît pas de l'attirance, elle naît de la connaissance qu'on a de l'autre et de la façon dont la personne se laisse aller à exister devant toi. Et ça, je trouve ça hyper chouette de le cueillir. Je trouve que mes modèles sont très belles.
Donc à chaque fois que tu les rencontres, Mais est-ce que tu as déjà représenté des modèles que tu n'avais pas rencontrés, justement ?
La seule personne que j'ai pas rencontrée, c'est Gisèle Pellicot. On est quand même sur un sujet qui est hyper particulier. La chose pour moi qui la rendait la plus particulière, c'est qu'elle ouvrait un procès énorme sur la problématique des violences faites aux femmes et du rapport des hommes au corps des femmes. Et donc, du coup, elle rentrait dans mes gardiennes de rue sans souci. Quoi. Je me disais, tiens, j'en ai parlé pas mal aux filles, hein, aux modèles, en disant, j'ai envie de la faire rentrer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle rentre dans notre série ? Parce que moi aussi, je suis dans ma série. Et du coup, elles m'ont dit, mais bien sûr, la particularité quand même de cette femme, c'est qu'on le voit, hein, dans le peu d'interviews qu'elle a, c'est qu'elle parle des autres, pas d'elle. Et je trouve que ce qui réunit tous mes modèles, c'est quand même oser être dans l'espace public, c'est un choix. Comme je dessine quand même quasi comme de la photo, c'est mon but, c'est que ce soit très réaliste, on peut reconnaître les femmes. Et du coup, c'est prendre le risque d'être vue avec ces opinions-là. Et je trouve qu'elle faisait partie de ce cheminement-là.
On en avait parlé tout à l'heure par rapport à la question des femmes minoritaires et même les minorités en général. Est-ce que tu as déjà représenté à travers ton travail des femmes issues de minorités, des femmes qui seraient trans, des femmes racisées, des femmes LGBT?
Dans les minorités, c'est variable puisqu'il y a pas mal de communautés différentes. J'ai pas de femmes trans parce que j'ai pas eu dans mes rencontres directes des débats avec des femmes trans sur les problématiques qu'elles ont pu subir, sachant que c'est en plus encore un autre débat sur les souffrances que peuvent occasionner la transidentité ou, tu vois, moi, le sujet que je traite qui est sur la question des rapports de violence faits par les hommes. Clairement, elles peuvent quand même rentrer dans ces débats-là. J'ai quelques femmes racisées, ça dépend toujours de ma rencontre, ce qui fait que ce qui peut être intéressant est difficile pour moi aussi, hein. C'est que sociologiquement, on peut étudier mon travail par rapport au fait que je sois une femme blanche hétéro. Mes rencontres vont être limitées à mon cercle,
et à ton cercle social.
Je vais rebondir de temps en temps en allant un peu plus loin, où des gens vont me rencontrer et savent que c'est mon travail, et du coup peuvent me raconter une histoire et je leur dis dans la confidence, est-ce que tu souhaites être mon modèle ? Mais c'est pas si simple. Et du coup, tu peux faire une étude sociologique de mon taf à travers ne serait-ce que quel est mon rayonnement personnel d'individu. Donc j'ai quelques femmes racisées, des femmes LGBT aussi, mais en fait tu sais pas qui est quoi. Je trouve que sur la question de la minorité, notamment je pense à un de mes portraits d'une femme racisée, la question n'était pas sur le fait qu'elle était racisée. On était que sur la question d'une femme qui a subi des violences. Le vrai débat étant la question du rapport de force et de domination. Donc là, on revient sur le problème du patriarcat. Ça revient toujours à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut faire rendre visibles les personnes ordinaires qui, elles, supportent le monde comme il est.
Puis, par rapport à cette question de représentation, on en avait aussi parlé, pour certaines, c'est compliqué, en fait, d'être représentée dans la rue.
Là, tu peux avoir, par exemple, des questions sur les femmes qui vont avoir une pratique, qui seront musulmanes et qui vont porter le voile et qui sont déjà venues dans une exposition et qui m'ont dit « Pourquoi vous n'avez pas de femmes voilées ?» Et là, je leur ai dit « Parce que pour vous, ce serait simple de devenir modèle pour moi. » Bah, bien sûr que non. Et je me dis « En fait, voilà, je peux me retrouver confrontée aussi dans des rencontres avec des personnes qui soient n'ont pas le désir de devenir modèle et de se montrer dans l'espace public, qui veulent aussi me dire la question de l'hypersexualisation des corps, moi, c'est aussi un outil que j'utilise dans ma séduction et j'ai pas envie d'interroger ça dans l'espace public. Parce que si je commence à lutter contre l'hypersexualisation de mon corps, je ne peux plus utiliser mon talent de séduction aussi auprès des hommes.
On se rend compte que le patriarcat, au final, est bien implanté dans nos têtes.
Nous sommes toujours en train de parler de la série de collages Les Gardiennes de Rue, une démarche artistique féministe initiée par l'artiste La Dame qui colle depuis 2021. L'artiste nous explique les origines de ce projet ainsi que ses objectifs. Projet qui, on peut s'en douter, suscite certaines réactions au sein des observateurs.
Étant donné que ces collages se retrouvent dans l'espace public, est-ce que tu as déjà retrouvé des actes de vandalisme sur tes collages ? Donc, par exemple, de gens qui viendraient souiller, entre guillemets, avec des messages obscènes de mascu, je sais.
Alors, déjà, cool, pas trop. J'ai eu un pute sur un de mes portraits là qui est pas très loin de chez moi. Gisèle Pellicot a été pas mal dégradée, il a été restauré par des femmes qui habitaient à côté de son portrait et je trouve qu'elle a été pas mal dégradée par rapport à d'autres portraits. Je trouve sur le papier il y en a eu un peu, mais du texte, mais souvent c'est plutôt on arrache la tête ou les yeux. Alors je me dis, est-ce que c'est à notre regard et du coup ça gêne donc on arrache les yeux, est-ce que c'est parce que le regard est gênant, est-ce que c'est parce que le papier se décolle à cet endroit-là, ça reste toujours un mystère. Donc j'ai quand même eu pas mal de dégradations. Il y avait notamment une période au début de mes collages où on décapitait les mannequins de vitrine. Mes collages aussi se faisaient décapiter. Et en plus, je trouve que moi, comme je commençais, et ça me coûte assez cher quand même comme projet, faut le dire, j'investis toute seule dans mon propre projet, et bien quand je voyais le collage au loin, j'avais l'impression d'avoir été trahie. Ça me faisait vraiment une boule au ventre, parce que tu donnes de l'amour en fait. Du coup, tu te dis, je suis blessée comme quelqu'un qui serait infidèle en face de toi. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être trompée, quoi.
Mais ça dépend des lieux aussi, en général.
Ouais. Ouais, ça dépend des lieux, selon les quartiers. Ça, je trouve ça assez chouette aussi de le repérer. C'est très bien. Tu vois, dans le quartier de Moulins, donc le quartier qui est à Lille, au début, ça faisait quand même pas mal dégrader. Maintenant, elles tiennent. Il y en a qui ont 4 ans, quoi. Je sais pas trop comment ça fonctionne et j'aimerais bien, tu vois, être dans la tête des gens qui dégradent. Je vois pas qui fait quoi. Tu vois, et j'ai eu très peu de textes. Très, très peu. Une moustache, jamais de pénis. quand même cool.
J'avais une question. Est-ce que tu as déjà eu des retours de tes modèles par rapport au collage que tu avais fait d'elles, qu'est-ce qu'elles en pensaient, etc. Ou même des gens dans la rue qui voyaient tes collages?
Ouais, oui, c'est vrai. Les modèles, il y a aussi la question de comment elles se voient dans le dessin. Elles soutiennent mon projet. Il y en a certaines qui sont sorties du projet. Elles le soutiennent parce qu'elles font partie en fait des femmes en lutte. Et ce que j'aime bien, c'est ce qui les unit aussi, c'est qu'elles sont pas en lutte, elles sont pas engagées, mais elles le sont dans leur vie au quotidien. Donc elles continuent à connaître mes collages. Elles ont pas trop de soucis avec le fait que je continue à les coller. Enfin, pour certaines, les retours des gens, c'est assez varié, mais j'ai très peu de haters. Peut-être parce que mon travail est pas très précis. C'est-à-dire, tu sais pas vraiment ce que je dis. J'ai juste, il y a un modèle de femme et il est accompagné par une signature. Ma signature, c'est un cartel, c'est un papier qu'on dans les expositions tu mets à côté d'une œuvre pour justifier quelle est l'œuvre que t'es en train de regarder. Donc je ne signe pas sur l'œuvre et dessus il y a écrit la dame qui colle format collage ou comment renforcer la place des femmes dans l'espace public. Tous ces portraits sont ceux de femmes qui nous prêtent main forte. C'est pas clair, tu sais pas ce que ça dit vraiment, et si tu regardes pas le cartel, tu te dis juste ah, oh, c'est un portrait de femme. Donc les seuls petits reproches que j'ai pu avoir, c'est pourquoi elle sourit pas.
J'avais vu que sur les collages que j'ai pu voir un peu dans la ville, elles avaient souvent un visage assez fermé et assez énervé, on va dire, entre guillemets. C'est voulu.
Déjà parce que dans l'espace public, t'es pas en train de sourire. Et aussi, comme moi, je les invite à poser pour soit lutter contre ce qu'elles ont vécu, elles, ou soit lutter pour les autres, elles sont défensives. C'est le but.
Ça contre vachement le truc de... Ah, une femme, elle doit toujours être souriante, elle doit toujours avoir l'air avenante. Et...
L'horreur. Et tu vois, il y avait un truc aussi qui est cool dans les rencontres que je peux avoir, c'est des gens qui me font reparler des choses auxquelles moi je pense pas. Toutes mes femmes sont immobiles alors qu'on sait que les femmes dans les espaces publics sont toujours mobiles. C'est-à-dire que les espaces sont pas faits pour t'arrêter. Souvent, c'est les hommes stagnent à des endroits, mais tu verras très peu les femmes stagner à des endroits. Les espaces sont pas accueillants pour la femme. Là, je dessinais que des portraits de femmes immobiles et du coup, elles sont en résistance avec l'habitude qu'on a de la femme qui va devoir fuir d'un endroit à un autre. On sait que l'utilisation des espaces publics par les femmes sont des déplacements professionnels. C'est elles qui utilisent le plus les transports publics et les espaces publics. Les hommes sont en voiture. Là, pour une fois, je les fais, elles stagnent, quoi.
J'aurais une dernière question. Quel est le collage qui t'a le plus marqué à faire? Si tu devais en retenir un, ce serait lequel?
Je pense, je dirais, il n'y a pas un collage en particulier, mais la situation d'avoir collé avec ma mère. Je trouvais ça assez chouette, elle était hyper réticente. C'est un sujet qui l'a beaucoup ému quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, enfin à travailler sur ça. Et du coup, on a bu une petite bière avant pour se détendre, parce que ça peut être un peu angoissant d'aller coller dans la rue. Et on allait coller mon portrait sur le lieu de mon agression. Sa phrase était pas cool, j'ai pas trop aimé ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « t'aurais dû en coller un autre parce que t'as des portraits bien plus forts que le tien ». Je me suis dit « abusé quand même ». Mais bon, du coup, j'ai quand même fait cette étape-là qui pour moi était importante et avec elle.
Est-ce que c'était un peu une... Même de manière personnelle, c'était une sorte de thérapie pour toi de faire ça?
J'ai du mal avec thérapie comme mot. Prise de pouvoir, ouais. Souvenir aussi, tu sais, tu commémores quelque chose qui est quand même... Enfin, j'ai quand même perdu une partie de ma vie à cet endroit-là. Enfin, c'est quand même sérieux, ces trucs-là. De le mettre là, c'était identifier le basculement.
Et y aller avec ta mère, c'était une sorte de symbolique?
Ouais, parce qu'elle est un peu dure des fois. Elle peut contenir, tu vois, elle-même des choses, et du coup, j'avais envie, moi, de pas le contenir. Il y a des endroits où j'ai envie que ce soit pas contenu, les émotions. Du coup, là, avec elle, je lui ai dit, j'ai envie d'aller me coller sur le lieu de mon agression, et elle me dit, quand même. Et en fait, je me rends compte qu'à l'époque, j'ai très peu parlé de cette agression-là, parce que c'était trop risqué d'en parler avec mes parents. Tu sais, ça, t'as peur pour ton enfant, et je voulais pas qu'il m'empêche de sortir, ou qu'ils imaginent le pire à chaque fois, quoi. Donc, elle a découvert les choses au fur et à mesure de ce projet. C'est un projet qui ouvre pas mal la parole.
Vous pouvez suivre et retrouver tous les projets de la Dame qui colle sur sa page Instagram, la Dame-du-Bas qui colle, ou tout simplement jeter un coup d'œil au mur des ruelles lors de vos prochaines sorties. Qui sait, peut-être rencontrerez-vous l'une de ses gardiennes. Pour finir, je laisse le mot de la fin à l'artiste.
Qu'on n'hésite pas à dire aux gens quand ils sont problématiques qu'ils le sont. Les gens qui font souffrir les autres, des fois s'en rendent pas compte, mais aussi savent très bien ce qu'ils sont en train de jouer. Il faut leur dire et il faut se le dire entre nous. Il faut éjecter les personnes problématiques. Il faut les nommer, il faut les faire exister. Qu'on ne reste pas isolé. Il faut que les choses changent là-dessus. D'ailleurs, le fameux que la honte change de camp. Et je trouve que même dans nos groupes d'amis, il ne faut pas être tolérant.
Un reportage de Aurore Henny pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM ou sur le www.campuslille.com.
Aujourd'hui, je sors à travers la pluie. L'abondance des relents compose mon chemin. La douceur du vacarme m'en plus d'insouciance. Où suis-je? Aujourd'hui, oh je sors, rencontrer l'étoile. Je ne t'ai pas encore vu, zapatiste notoire, promettre l'interprétation d'une nouvelle renardière. Accroche-toi vite, philanthrope, accroche-toi vite, je m'évapore. Où vais-je et qui suis-je? Oh, oh, où vais-je, qui suis-je, où je suis, où je suis?
Le service civique Solidarité Senior Hauts-de-France est une antenne de la mobilisation nationale Service civique Solidarité Senior, créée sous l'impulsion d'Unicité et du groupe Malakoff Humanis, avec le soutien du ministère chargé de l'autonomie et du secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement. Cette mobilisation vise à lutter contre l'isolement des personnes âgées en encourageant le contact entre jeunes et seniors. Rencontre avec Madame Raïm, responsable régionale du dispositif Service civique Solidarité Senior sur les Hauts-de-France.
L'association Service civique Solidarité Senior est une mobilisation nationale qui a pour ambition de pouvoir mettre en place des activités, des animations pour lutter contre l'isolement des seniors et favoriser le rapprochement entre les deux générations, entre les jeunes services civiques qui vont faire des animations, des activités auprès des seniors dans des EHPAD ou des visites à domicile et pour pouvoir consolider des liens avec des seniors.
Quel est le profil des personnes qui sont sur ces postes ?
En fait, c'est de l'engagement. Nous, Service civique Solidarité Senior, nous mettons en place un dispositif qui va permettre à des jeunes âgés de 16 à 25 ans de pouvoir s'engager dans une mission de service civique auprès de CCAS, auprès d'EHPAD, pour faire des visites à domicile, pour faire des animations. Les jeunes n'ont pas besoin d'avoir un profil bien identifié, ils ont besoin juste... un petit peu de courage, de la volonté et surtout cette grande envie de faire changer les choses, de donner un petit peu de sourire, de joie de vivre aux seniors. Ils s'engagent, pas besoin d'avoir un diplôme, pas besoin d'avoir une formation bien spécifique, juste avoir 16 à 25 ans et de vouloir donner 6 mois ou 8 mois de sa vie pour un projet d'intérêt général qui va transformer durablement notre société et prendre soin de nos aînés.
Vous intervenez sur le territoire de la région des Hauts-de-France ?
Oui, c'est un dispositif national. Moi, je suis responsable de l'ensemble des Hauts-de-France, donc ce qui couvre la région de l'Aisne, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Sur le Nord-Pas-de-Calais, nous avons en tout 783 volontaires qui vont faire des missions de visite à domicile ou des animations dans les CCAS, les EHPAD ou dans les hôpitaux auprès des seniors.
Ces jeunes, quand ils arrivent chez vous, est-ce que vous les formez ?
Alors, les jeunes, bien évidemment, on ne les laisse pas comme ça s'engager dans une mission de service civique. Donc, ils sont accueillis par les structures qui va bien sûr leur expliquer tout le fonctionnement de la structure. Et nous, pendant toute la durée de leur mission, on va leur offrir 11 temps de formation qui vont leur permettre, un, de mieux appréhender leur mission, comment je vais tisser une relation et bâtir une relation de confiance avec un senior, comment je rentre en contact avec un senior, comment j'appréhende un petit peu toutes ces difficultés liées aux difficultés des seniors, liées à la dépression, parfois à la maladie. On va lui apprendre tout ça aux jeunes. Et puis, après, il va pouvoir être formé aussi comment mener des activités, des animations auprès des seniors. Et à la fin... À la fin de son service civique, il va avoir 3 temps de formation où là, il va pouvoir travailler son projet d'avenir. Parce que c'est notre manière aussi à nous de le remercier pour son engagement citoyen auprès des seniors. Et là, on va l'aider à construire un projet professionnel.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites aujourd'hui à Roubaix ?
Alors, à Roubaix, c'est un moment très important pour nous. Le 29 avril, c'est la journée européenne de la solidarité intergénérationnelle. Donc aujourd'hui, on a voulu créer un temps festif, un temps convivial avec les seniors et les jeunes qui vont pouvoir échanger, se rencontrer, papoter, mais surtout danser. Prendre un peu de joie, de bonheur et se couper un petit peu du parfois quotidien qui peut être sombre et... un petit peu angoissant pour certains seniors. Là, c'est la fête.
Donc là, les seniors viennent de la région.
Là, les seniors viennent un peu de toute la région des Hauts-de-France. Donc, vous avez pu voir qu'on a des seniors du Pas-de-Calais qui viennent du réseau de confiance du Pas-de-Calais. On a des seniors qui viennent de l'Aisne. On a des jeunes volontaires qui viennent de l'Oise aussi. On a tout le Nord qui est représenté. Et bien sûr, beaucoup de volontaires de la ville de Roubaix, de Tourcoing et de Waterloo.
Si on a besoin d'informations sur votre association, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
www.scserviceciviquesolidaritesenior.fr.
Fabienne, adhérente au réseau de confiance de Liévin.
Je suis rentrée au réseau au mois de juillet l'année dernière, suite à une désociabilisation totale, donc j'étais pas très très bien. Un ami m'a proposé de venir au réseau de confiance et j'y suis allée. Et je ne quitte plus le réseau de confiance, j'y suis tout le temps, je fais toutes les activités. J'adore les civiques, les civiques sont géniaux, c'est des super personnes, c'est des jeunes gens qui en veulent et qui sont très, très sympas avec nous. Et du coup, moi, je veux même en faire un peu plus au niveau du réseau et m'investir davantage. Voilà, c'est comme ça. Et je m'y sens très, très bien.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites aujourd'hui à Roubaix ?
Alors, on m'avait proposé de venir à une journée, donc j'ai accepté, parce que c'est des choses que j'aime bien faire, au plus. Et puis, on est arrivé ce matin et j'ai participé à la décoration de la salle. Voilà, ça, je me suis bien sentie. J'aime bien. On a l'impression d'être considéré, vous savez. Ça fait, et donc, ça fait du bien et j'apprécie. J'apprécie énormément d'être venue ici.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette action ?
C'est très bien de faire sortir les personnes âgées. C'est bien de se les faire rencontrer, pas qu'ils soient isolés. L'isolement, je connais bien. Je me suis isolée pendant plus de 6 ans. Donc, je connais très bien. Je suis sortie par des problèmes psychiatriques et tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais très bien. Aujourd'hui, je sors, je suis au contraire d'avant, je suis plus dehors que dedans. Et je trouve que c'est très très bien de faire rencontrer les gens, de leur expliquer qu'il y a toujours possibilité de faire des choses, de discuter avec d'autres gens, même si c'est des personnes âgées. Bon, c'est vrai que les personnes âgées, elles ont du mal à sortir, mais il y a toujours possibilité de faire des choses. Et c'est vrai que c'est convivial de se retrouver entre personnes à peu près du même âge. Et donc, du coup, moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est totalement bénéfique. C'est très, très bien et c'est surtout bon pour la santé.
Xavier, du réseau de confiance de Lille Métropole.
Eh bien, aujourd'hui, on est venu participer à cette très chouette journée européenne de la solidarité intergénérationnelle. Effectivement, au titre d'unicité, principalement, puisque les volontaires qui sont ici présents, les volontaires en service civique qui sont ici présents, accompagnent au quotidien des seniors, ici à Roubaix, mais encore une fois, sur l'ensemble de la métropole européenne de Lille.
Et là, c'est un travail avec votre partenaire.
Oui, exactement, Service Civique Solidarité des Seniors, qui est un partenaire qui permet justement de former ces services civiques, ces volontaires en service civique qui travaillent pour l'association Unicité, qui sont accompagnés par l'association Unicité. Et puis c'est aussi un partenaire de longue date, puisqu'ils sont à l'origine de cette mobilisation très forte des jeunes sur la question de la solidarité des seniors. Et le lien avec Unicité et Service Solidarité Seniors se fait même à l'échelle nationale. Donc c'est un partenaire majeur pour Unicité.
Et c'est un tel événement, ça met aussi en avant le travail qui est fait.
Oui, c'est surtout, je crois, pour les jeunes, une grande fête qu'ils souhaitaient vivre aussi avec les seniors qu'ils accompagnent. C'est aussi l'occasion de nouvelles rencontres, de nouveaux seniors qui viennent de l'ensemble de la région. Donc c'est l'occasion effectivement de se retrouver sur une thématique qui est aujourd'hui de plus en plus patente chez nous, la question de la solidarité intergénérationnelle. On sait qu'on a un pays qui vieillit, on a de plus en plus de seniors qui sont présents et la mobilisation de ces jeunes aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage. Et puis inversement, c'est l'occasion aussi pour les seniors, je crois, de rendre hommage à ces volontaires, à ces jeunes qui œuvrent au quotidien pour eux.
Si on a besoin d'informations sur votre association, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Eh bien, nous avons un site internet Unicité, unicité.fr. Notre antenne est basée à Lille. Nous avons une association qui regroupe plusieurs autres types de missions, des missions en environnement, des missions en culture, par exemple. Donc ça, c'est notre association Unicité. Le dispositif réseau de confiance, il est roubaisien. Il est situé rue du Curoir à Roubaix. La meilleure façon de rejoindre Réseau de Confiance quand on est senior, mais quand on a aussi envie de connaître les activités de Réseau de Confiance, c'est notre site internet, encore une fois, réseaudeconfiance.fr, sur lequel vous aurez la possibilité de découvrir les différents événements et ce que propose l'antenne de Roubaix de Réseau de Confiance.
Sandra, aide-soignante à Isabeau de Roubaix.
On a Roubaix avec mes patients pour leur faire découvrir la jeunesse et les seniors mélangés. Et ils trouvent ça très, très, très bien.
Donc c'est une journée de solidarité, c'est ça ?
C'est ça, une bonne journée de solidarité.
Pourquoi est-ce que vous les avez ramenés à cette journée ?
Pour le mélange entre les jeunes, les plus vieux, et pour les différentes cultures. Voilà. Et aussi pour l'isolement des personnes âgées. Mais moi, le service que je suis, ça s'appelle l'USLT des jeunes, que je précise. C'est des jeunes entre 40 et 60 ans qui ne peuvent malheureusement pas aller en EHPAD. Et c'est Isabeau qui les récupère. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez d'une telle journée ?
À refaire. Excellente.
Nous étions à la condition publique à Roubaix pour l'événement organisé dans le cadre de la Journée européenne de la solidarité intergénérationnelle par le service civique solidarité senior des Hauts-de-France. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Ah, moi, quand je me dis que je suis large pour faire une demande de bourse ou de logement étudiant. Moi, quand je réalise que je n'ai plus que quelques jours pour faire mon DSE. Vite! Je me rends sur messervices.gouv.fr avant le 31 mai.
Et pour savoir si tu es éligible à une bourse ou un logement étudiant et comment remplir ton dossier, il suffit de te rendre sur le site jedemandemabourse.lescrousse.fr. jedemandemabourse.lescrousse.fr.
We'll be right back. Chanzy, la rue Chanzy. Savoir que faire, savoir que faire. Pour se noyer, pour se noyer.
De la rencontre, du lien entre les gens et moi ça m'a permis de rebondir, de me remettre au tricot.
Il y a des spécialistes toutes autour de la personne, de la famille, que ce soit de l'écoute, la psychologue, les relations.
La maison Barthimé est un tiers-lieu basé dans le quartier de la Victoire à Compiègne, dédié aux familles et aux liens sociaux. C'est un lieu vivant d'accueil, de rencontre, d'écoute et d'accompagnement au service de chaque personne qui souhaite prendre soin de ses relations affectives. Anne-France Chassin, maîtresse de maison salariée de l'association La Maison Barthimé, nous explique la genèse de ce projet.
La Maison Barthimé a été créée sur une idée du diocèse de Beauvais. Aujourd'hui, c'est une association loi 1901 à vocation culturelle, acteur de lien social pour créer du lien et prendre soin des relations affectives. Et aujourd'hui, c'est une association qui accueille absolument tout le monde sans poser de questions sur les origines, la religion, l'état de vie, la situation. L'objectif, c'est que tout le monde se sente bien et se sente accueilli tel qu'il est.
Justement, qui vient chez vous ?
Chez nous vient des curieux qui poussent la porte pour voir ce qui se passe ici. Des gens qui savent que c'est un lieu où ils vont avoir une oreille attentive. Des gens qui ont envie de boire un café. Des jeunes qui viennent après les cours le vendredi pour jouer. Des gens qui ont envie de faire une activité pour être moins seuls. Des gens qui viennent pour se faire aider, accompagner sur des difficultés liées aux relations. Et des gens qui s'inscrivent à des ateliers pour travailler des points un peu sensibles et difficiles de leur vie relationnelle.
En quoi la position stratégique de la Maison Barthimé, je rappelle qu'on est au quartier de la Victoire à Compiègne, est-elle stratégique ?
Ce qui est intéressant dans l'emplacement, c'est qu'on est sur un rond-point entre deux quartiers, un quartier un peu plus cossu des Sablons et un quartier plus populaire de la Victoire. Et l'objectif, c'est que dans ce bistrot, des mondes se rencontrent. Et c'est pour moi une grande satisfaction quand je vois des mamans des écoles différentes qui viennent se poser après les cours. Les enfants se retrouvent tous autour du baby-foot et les mamans se mettent à discuter autour de leur café. En fait, c'est ce qu'on essaye de vivre. C'est un lieu de rencontre où justement on sort de nos a priori, on a une occasion de sortir de nos a priori pour rencontrer l'autre et justement savoir qui il est un peu plus. C'est un quartier assez mixte. On aime beaucoup l'événement de la fête des voisins. On l'a vécu l'année dernière et c'est un moment qui nous a vraiment permis de rassembler largement devant la maison et dans la maison des gens qui ne se côtoient pas, qui ne se croisent pas. Et en fait, toute la richesse aujourd'hui, c'est de se rencontrer.
Pourquoi la maison s'appelle la maison Bartimée ?
Bartimée, c'est une personne, c'est une page de la Bible. C'est une personne qui était aveugle, qui a retrouvé la vue et qui, en retrouvant la vue, a retrouvé sa dignité.
Comment, Anne-France, la maison est-elle gérée ?
Alors, elle est gérée par, comme toute association, avec une présidente, un président, un conseil d'administration. Et on fonctionne aussi avec trois commissions. La commission cœur de mission, qui gère tout l'aspect professionnel des consultations et des ateliers. La commission vie de la maison, qui organise toutes les animations. Et la commission finance.
Pouvez-vous nous présenter l'équipe de professionnels qui accompagne, on va dire, sur la vie affective des personnes qui viennent ici ?
Nous avons 6 professionnels qui consultent ici à la Maison Bartimée. Ces professionnels ont toutes leur cabinet à l'extérieur. Elles sont bien sûr certifiées, elles sont supervisées, elles ont de l'expérience. Et elles ont décidé qu'une journée à peu près de leur semaine serait dédiée à des consultations à la Maison Bartimée. Donc nous avons 2 conseillères conjugales et familiales qui viennent de la région parisienne. Nous avons 2 psychologues, une thérapeute ICV qui est aussi somatothérapeute et une médiatrice familiale.
Vous, Anne-France, quel est votre rôle à la Maison Bartimée ?
Alors, mon rôle, c'est de coordonner un petit peu ce qui se vit dans la maison pour que ça se passe bien, qu'il y ait une fluidité, que l'accueil soit agréable. Donc, je coordonne l'équipe de tisseurs de liens qui sont bien engagés dans le projet. Je mets en place des formations, un suivi. On a une psychologue qui vient 2 fois ou 3 fois par an pour relire les événements qui se vivent à l'accueil, parce que ce n'est pas un accueil anodin. On accueille chaque personne de manière inconditionnelle. Donc je gère toute cette équipe de formidable de bénévoles que je remercie au passage. Nous avons 63 bénévoles dans la maison, dont un tiers sont sur l'accueil et l'animation. Je gère la partie logistique. Alors, je suis aidée de Dominica sur tout ce qui est stock. Je gère la commission qui s'occupe des animations. Je participe à la commission cœur de mission.
Vous écoutez actuellement l'interview d'Anne-France Chassin, maîtresse de maison salariée de l'association La Maison Bartimée dans le quartier de la Victoire à Compiègne. Vous parliez à l'instant des tisseurs de liens. Est-ce que vous pouvez les présenter et dire quelles sont leurs missions ?
Les tisseurs de liens, donc, ils sont tous bénévoles. Ils ont accepté de donner du temps de manière assez régulière pour être à l'accueil de la maison. La position d'accueil est essentielle parce que c'est le premier visage de la maison que les gens vont rencontrer, le premier sourire. Ils renseignent sur ce qui se vit à la maison, ils servent le café, ils se posent dans le bistrot avec les personnes qui viennent. Ça, c'est pour les bénévoles de l'accueil. Et puis, les bénévoles des animations partagent une passion, un talent, comme la pâtisserie. On a un jeune retraité, la Emmerich, qui vient le mercredi pour faire du pain avec les personnes qui veulent. Il y a celles qui tricotent, font du crochet, du patchwork. Et là, le mardi, il y a un gros groupe qui vient faire de belles choses ensemble dans un esprit bienveillant. Et les tisseurs de liens sont garants du climat de la maison.
Pour 90% de la population, la vie de famille est une priorité. Pourtant, le constat est paradoxal, puisque les chiffres des ruptures familiales sont croissants. Comment, Anne-France, vous expliquez ce paradoxe ?
Je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, c'est un lieu qui, à terme, aimerait être un lieu de prévention des ruptures, dans le sens où on ne sait pas forcément aujourd'hui où se tourner quand ça va mal dans la famille. On ne sait pas qu'il y a des lieux, qu'il y a des professionnels qui sont spécialisés, formés et qui sont expérimentés, qui ont la distance nécessaire pour pouvoir accompagner, orienter, guider quand on traverse des moments difficiles. À terme, si ce lieu devenait un lieu de prévention des ruptures, c'est sa vocation, ce serait formidable. Mais c'est vraiment un lieu qui se veut un lieu ressource, c'est-à-dire qu'on peut frapper à la porte de la maison en disant « j'ai telle problématique », vous serez accueillis en toute confidentialité. La confidentialité est clé et nos tisseurs de liens, nos professionnels, enfin tout le monde vit cette confidentialité à l'égard de ce qui nous est confié. Et ce sera suivi et traité par des professionnels en fonction de votre problématique.
Vous êtes là pour traiter les conséquences à la fois sociales, psychologiques, éducatives, mais aussi financières.
Voilà, nos tarifs de consultation et d'atelier suivent un barème pour permettre au plus grand nombre de se faire accompagner, de se faire aider ou de participer à un atelier. Donc en fonction de votre quotient familial, vous pouvez rencontrer un thérapeute entre 18 et 65 euros.
Comment vous apprenez aux gens à mieux aimer et à mieux s'aimer ? Quel que soit leur âge, leur situation, leur mode de vie ou leurs convictions religieuses. Comment vous procédez pour que le love soit mieux ?
Déjà, je pense que quand on entre dans cette maison, elle a été conçue de manière à ce que l'on s'y sente bien. C'est à la fois simple, mais il y a un sens de l'esthétique du beau. Les gens disent, ben, c'est vraiment agréable chez vous, on s'y sent bien. Donc je pense que déjà ça, prendre soin de l'autre, c'est lui donner un cadre agréable, accueillant. C'est une première chose qui a beaucoup d'importance. Ensuite, on essaye de rester très bienveillant et à l'écoute de la personne qui vient. Et on essaye entre nous de véhiculer ce prendre soin, c'est-à-dire que avec les autres salariés de la maison, entre les bénévoles, on essaye tous de prendre soin les uns les autres. Le prendre soin, il est à tous les niveaux.
Existe-t-il des tiers-lieux de la même éthique que la maison Barthimé dans les Hauts-de-France ?
Je ne pense pas. Il y a sûrement des lieux formidables aussi, mais je ne connais pas de lieu qui regroupe à la fois un bistrot et un cœur de mission avec des ateliers sur des thématiques très variées pour travailler sur la famille et avoir des consultations.
Le 19 mars dernier, la maison Barthimé a soufflé ses deux bougies. Quel est le bilan de ces deux premières années ?
Le bilan est positif dans le sens où on a de plus en plus de personnes qui viennent pour les consultations, la participation aux ateliers est en forte hausse, les animations fonctionnent bien. On sent que le bouche à oreille, les actions de communication fonctionnent et que la confiance est réelle envers ce que l'on propose. Donc c'est pour nous une source de satisfaction. Maintenant, il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette maison. Donc on a encore des défis à relever, bien sûr. Les projets, alors l'idée, c'est d'être au plus près des problématiques que vivent nos contemporains. Voilà. D'être à l'écoute des besoins. Dans notre monde très connecté, il y a beaucoup de souffrances liées aussi à cette connexion au virtuel chez les jeunes, chez les adultes. Voilà, on essaie d'être à l'écoute de toutes ces problématiques et on travaille à faire des propositions qui permettent d'accompagner sur ces difficultés.
Quelles sont les thématiques des ateliers que vous proposez, Anne-France ?
Elles sont diverses, elles s'adaptent à toutes les étapes de la vie. Ça peut être de l'aide à la parentalité avec un parcours parent d'ado, améliorer son estime de soi, des journées de rencontres pour préparer les enfants à la puberté, parents-enfants, père-fils, mère-fille, un parcours Teen Star pour les lycéens, des ateliers sur la communication, la résolution de conflits, le couple, la communication et on n'oublie pas les bébés avec le portage et le massage bébé. Et puis mieux se connaître avec l'Ennéagramme, un outil pour mieux se connaître, mieux aimer les autres et être plus à l'aise dans nos relations.
Il n'y a pas forcément que les gens de Compiègne qui viennent chez vous ?
Non, pas du tout. Cette maison accueille des gens qui viennent de tous les villages autour, de Crépy-en-Valois bien sûr, mais bien au-delà. On couvre le territoire de l'Oise, mais on va aussi au-delà. Il y a des gens de région parisienne, même de Rennes qui étaient venus à un de nos ateliers.
Merci à vous.
Merci Yann.
Alors, je m'appelle Domenica, je suis équatorienne. Et j'ai 26 ans et je suis en France depuis, ça va faire 12 ans, ici à la maison Barthimé, comme volontaire.
Comment vous l'avez connue ?
Alors en fait, j'ai postulé pour faire un volontariat en France et par l'association qui s'appelle France Volontaire dans mon pays. Et je savais qu'il y avait une mission, qu'il cherchait des personnes un petit peu autour de la psychologie, l'éducation. Et du coup, moi, je suis psychologue et j'ai postulé. Et après, j'ai passé un entretien et tout. Et ils m'ont donné la mission de venir ici à Compiègne pour travailler à la maison Barthimé.
Comment vous la décririez, cette maison ?
Vraiment, la maison Barthimé, je pense que c'est un endroit unique. Vraiment unique. J'ai jamais connu un endroit comme ça. Je pense que vraiment ici, il y a un cœur des missions déjà très important par rapport à toute la société, toutes les problématiques que nous, on en a déjà. Et moi, en tant que psychologue, et d'une personne aussi qui vient de l'Amérique latine, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes avec la relation, déjà la sécurité et tout, et de me retrouver ici avec un partage unique aussi et intergénérationnel. On parle beaucoup que la maison Barthimé, c'est là pour soigner les relations familiales, mais c'est vrai que pour moi, ça m'a beaucoup soigné, ça m'a beaucoup aidé à continuer à grandir aussi. Et je pense que les rencontres ici que j'ai eues depuis que je suis arrivée, ça va toujours me marquer pour toute la vie.
Vous travaillez ici pour faire l'accueil, l'animation. c'est-à-dire ?
L'accueil ici, c'est un accueil aussi très différent. Déjà, s'ils ne connaissent pas la maison, je présente la maison avec tous les ateliers, les animations, les consultations. Parfois, il y en a des personnes qui arrivent pour se poser un petit moment, pour boire un café ou pour lâcher un petit peu ses soucis. Donc, du coup, on prend les cafés ensemble, on se pose un petit moment aussi, je parle avec eux. Donc, c'est un accueil très différent parce que ce n'est pas juste de présenter quelque chose et de laisser la personne toute seule. C'est vraiment de partager et de rester avec la personne aussi pour la connaître un petit peu. Et alors, l'animation, c'est comme l'animation aujourd'hui, justement, qu'on est en train de vivre. C'est l'animation conviviale. Donc, il y en a plusieurs en semaine, pendant les vacances, il y a plusieurs sujets et thématiques. Et donc là, je fais partie de l'animation, je mets les gens ensemble, on partage aussi entre nous.
Dans son jardin, Augustin va planter des fraises, Jean des carottes, Sylvie des potimarrons, Carole des framboises et Françoise des mûres.
Cet après-midi, il s'agit d'un atelier cuisine.
Alors, ce n'est pas un atelier juste cuisine. Cette animation aujourd'hui, c'est plutôt une animation que nous, on avait pensé avec une commission. Pour l'année dernière, avec mon arrivée, on a décidé de faire un voyage autour du monde. Chaque semaine de vacances scolaires, on faisait un pays différent. Et donc, du coup, cette année, on a choisi de changer ça et on a fait autour des saisons. Et donc là, c'est le printemps. Donc, chaque jour, c'est un sujet différent. Hier, c'était l'apiculteur. Mardi, c'était la pêche. Et aujourd'hui, c'est le potager.
Tu veux planter quoi ?
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulsien. Nous étions à la maison Barthimé, un tiers-lieu basé dans le quartier de la Victoire à Compiègne, dédié aux familles et aux liens sociaux.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Hey, c'est Adrien Fedeli de l'émission Campus Sport Club. Vous êtes bien sur Radio Campus, 106,6 FM en DAB+ et en réécoute sur campuslille.com. Et je vous souhaite une réjouissante journée sur notre antenne.
Centrale au cœur du firmament. Hey, dans une histoire de ce village du Crène, assise près du feu, un tricote sereine, tout en faisant la soupe et en pliant les draps. Elle, c'est la maman Boris et Nicolas. Ouais, dans cette histoire de ce village du Crène, si la maman est si sereine, c'est que c'est le seul village de tout le continent où ce sont les loups qui ont peur des enfants. Ouais, dans les vergers de ce village du Crène, vers le ciel montent des antiennes. Ce sont les paysans qui sont vraiment contents, cachés par les allées de leur bois rouge et ah ouais, dans les vergers de ce village du Crène, le père boit toute sa peine, puis il tient des propos délirants avec ses 12 bouches et ses 70 dents. Ouais, et dans cette histoire de ce village du Crène, la mère connaît la rengaine, on s'y fait des trucs si excitants, et ses quatre mères de sang de le père content. Ouais, dans cette histoire de ce village du Crène, Boris et Nicolas reviennent et blottis dans les bras de leurs parents, ils dorment et font les rêves que font les enfants. La 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 la
dans les jours qui vont venir, n'allez pas vous endormir, car vous allez voir de drôles de choses venir du ciel jusqu'ici-bas. Des maisons suspendues dans l'air, des champs de glaïeuls nucléaires, mais il y a une chose que vous ne verrez pas. Il y a une chose que vous ne verrez pas. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Quand tes lèvres sont mouillées, il pourra jamais t'embrasser. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Ben, prends ta voiture atomique et pars le week-end faire une pique-nique. Ramène une baguette du camembert du 12 degrés nucléaire. Mais quand les lèvres de ta petite amie commencent à se mouiller, elle te dit, chérie, il y a une chose que l'atome ne fait pas. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Il pourra jamais t'embrasser quand tes lèvres sont mouillées. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Et les docteurs de l'atomicité qui travaillent à l'université, tu peux les prendre tous et de ma part. Va les voir, va leur demander, tu veux savoir la vérité, s'il y a une chose que l'atome ne fait pas. Oh, il y a une chose que l'atome ne fait pas, papa. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Il pourra jamais t'embrasser quand tes lèvres sont mouillées. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Et le jour où je vais me marier, des cloches nucléaires peuvent bien sonner. Chez moi, des chansons atomiques seront toujours les bienvenues. Mais après la soupe et la cérémonie, tout ne sera pas fini. Il y a une chose où l'atome sera perdu. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Il pourra jamais t'embrasser quand tes lèvres sont mouillées. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Une chose que l'atome ne fait pas. Il y a une chose que l'atome ne fait pas. Il pourra jamais t'embrasser, il pourra jamais te caresser. Il y a une chose que l'atome ne fait pas.